Et au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 14h, retour sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, débat autour de quelques-unes des grandes questions internationales du moment. Trump, l'Europe et l'Iran, les 70 ans de la création de l'État d'Israël. L'anniversaire est demain. Demain aussi, commémoration de l'exode de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Notre invité sera le fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Rendez-vous avec Pascal Boniface dans quelques minutes.
France Inter. Questions politiques, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour.
Natacha en duplex depuis quelque part en France pour cause de grève SNCF. Mais magie de la technique et des techniciens de France Inter, vous êtes avec nous en studio, Natacha. On y reviendra tout à l'heure à la SNCF. On va démarrer évidemment avec ce qui domine l'actualité, à savoir cet attentat hier soir en plein cœur de Paris, dans le quartier de l'Opéra. Attentat au couteau revendiqué par l'État islamique. Un mort, quatre blessés. L'auteur de ces attaques était français, né en Tchétchénie, 29 ans. Vous l'entendiez dans le journal Yves Decamp, fiché S. Il a été abattu par la police et le Premier ministre Édouard Philippe prenait la parole hier soir.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, moi-même, sommes en contact avec le président de la République et nous voulons dire combien la France est déterminée, absolument déterminée, à ne céder en rien aux menaces que des assaillants veulent faire peser sur elle. Nous souhaitons apporter des réponses ferme, claire. Nous souhaitons faire en sorte que les forces de police et les forces de gendarmerie puissent être à la hauteur de la tâche. Elle est immense, mais ils sont remarquables. Et je veux encore une fois dire toute la confiance et toute la fierté que nous pouvons placer dans les forces de police et dans les forces de gendarmerie. Je vous remercie.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui rendait donc hommage aux forces de l'ordre. Pas de risque zéro, déclarait François de Rugy dans Questions politiques. Raphaël, pas de risque zéro, c'est une manière de dire il va falloir s'habituer à vivre avec ?
S'habituer sans s'habituer, puisque ce n'est pas une situation normale. Il ne faut pas qu'on considère que c'est la normalité. Mais oui, la victoire militaire sur le terrain contre l'État islamique ne met pas fin à la menace terroriste. Il y a un phénomène qui est extrêmement préoccupant et dangereux. C'est le caractère low cost, les initiatives individuel d'un homme qui prend un couteau et qui, au nom de l'idéologie de Daesh, mais sans qu'on soit à ce moment-là, enfin au moment où je parle, convaincu ou pas qu'il y ait des relations directes avec un état-major, eh bien, décide de répondre à l'appel qui a été lancé par l'État islamique, c'est-à-dire de prendre un couteau, un camion, une voiture, et au nom d'une idéologie qu'il faut combattre, de semer la terreur. Et c'est ça qui est extrêmement terrorisant pour une société, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire d'imaginer des réseaux extrêmement complexes, une armée de l'ombre, mais c'est le terreau idéologique et des gens qui répondent à un appel. Vous vous souvenez tous de cet appel de Daesh qui est de dire prenez n'importe quelle arme, oui, n'importe où, pour tuer n'importe qui. Et donc là, on est dans ça.
Natacha.
Oui, à ceci près que ce qu'on observe tout de même, ce sont des profils qui se ressemblent de plus en plus souvent, c'est-à-dire des gens qui sont soit de nationalité étrangère, on a eu un Tunisien, on a eu des gens qui sont, ou alors qui sont, comme celui-ci apparemment, naturalisés récents, et qui sont donc arrivés en France, qui sont présents sur le sol français, qui se radicalisent, qui sont fichés S, c'est-à-dire qu'ils sont repérés, et pourtant, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Et c'est là où ça devient problématique sur le plan politique. C'est-à-dire que il va falloir, à un moment donné, réfléchir aux moyens politiques de neutraliser en partie, puisque nous sommes bien tous d'accord que le risque zéro n'existe pas et qu'il n'y a rien de plus compliqué que de prévenir ce genre de passage à l'acte individuel, oui, mais il va falloir à un moment donné répondre à cette menace précise qui est celle de gens qui se retournent contre la France, mais qu'on a dans le viseur.
Mais comment faire quand ils n'ont pas d'antécédent judiciaire, Natacha ?
Alors, c'est tout simplement cette fameuse, on en revient toujours là, à cette question de l'état de droit. Qu'est-ce qui est dans l'état de droit ou qu'est-ce qui n'y est pas? Or, il y a dans l'état de droit, puisque c'est dans notre code civil, il y a l'intelligence avec l'ennemi, par exemple. Il suffirait, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, aucun parquet n'attaque pour intelligence avec l'ennemi, pour voir ce qui se passerait, pour voir comment les juges utiliseraient cet outil.
Raphaël.
Oui, et c'est vrai que la litanie des gens fichés S qui commettent des attentats choque légitimement. Et il n'y a aucune question en fait qui doit être taboue face à une situation comme celle-là. Simplement, moi, je me méfie des réponses hâtives des commentateurs qui vont sur les plateaux de télé et qui nous expliquent qu'il suffit d'enfermer les fichés S. Or, enfermer les fichés S, c'est tomber dans une société qui est totalement différente. Donc oui, pour poser les questions, attention toutefois à ne pas sacrifier l'état de droit avec la nécessaire lutte contre le terrorisme. C'est toute la difficulté pour nos sociétés.
Natacha.
Oui, mais justement, là, on est bien dans l'idée d'utiliser tous les outils que permet notre état de droit. Et si cet outil-là a été prévu, c'est justement pour répondre à des cas spécifiques. Or, il ne s'agit pas... Je suis totalement d'accord sur le fait que je ne supporte plus, moi non plus, d'entendre les rodomontades de plateaux télé. Il faut les enfermer tous. Non, justement, il ne faut pas les enfermer tous. En revanche, il faut systématiquement utiliser cet outil-là, en plus de tous ceux que nous avons dans l'arsenal juridique, pour expliquer qu'il y a une idéologie qui est une idéologie qui nous a déclaré la guerre, qui est mortifère. C'est un ennemi. C'est-à-dire cette idéologie qui consiste à dire que, au nom d'une supposée lecture totalement délirante de textes religieux, il faudrait venir tuer partout des Français. C'est une guerre contre nous, donc nous répondons.
Enfin, là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on oscille entre deux grilles de lecture qui sont, à mon avis, toutes les deux fausses et qui nient le caractère idéologique du conflit qui vient. Soit on explique que c'est une guerre de civilisation et dans ce cas-là, c'est une religion ou une civilisation qu'on aurait affrontée, ce qui est complètement faux et ce qui est extrêmement dangereux. Soit on traite ça simplement comme si c'était une affaire de hooliganisme ou de terrorisme, sans le qualifier idéologiquement. Or, c'est vrai, il y a une idéologie, et c'est sur cette idéologie que fleurissent les initiatives terroristes. Et donc, il y a un conflit idéologique à assumer de manière très claire. Je pense que on va vers cette attitude-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'attitude qui était celle de beaucoup d'élites françaises il y a 2 ou 3 ans.
Le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Et dans l'actualité, un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, un document qui sème le trouble, titre Le Quotidien. Alors que la 9e séquence de grève commence aujourd'hui, une note de travail interne qui ouvre une brèche pour une possible privatisation de la SNCF, Natacha. La SNCF et le ministère des Transports démentent, mais Le Parisien raconte qu'une société il y a eu une réunion où la SNCF demande au gouvernement la possibilité d'ouvrir à d'autres que l'État la possibilité de détenir des titres de la future entreprise SNCF.
Alors voilà, c'est toute la complexité de ce document. Donc
c'est si complexe que j'ai été un peu clair, je pense, en l'expliquant.
Alors, on va la refaire. Donc, oui. Cette réunion s'est tenue le 4 mai, réunion de travail. Le Parisien donc, a obtenu le compte-rendu de cette réunion entre le ministère des Transports, le cabinet du ministre des Transports et la direction de la SNCF. Et il était question du caractère incessible des titres de la future entreprise SNCF, puisque en fait l'un des points d'achoppement de cette réforme, c'est le changement de statut de la SNCF, qui doit donc devenir une société anonyme, mais à capitaux non cessibles. C'est ce qu'on nous expliquait.
C'est beaucoup
donc,
plus clair, merci.
La privatisation était un fantasme, puisque l'État ne pourrait pas céder les capitaux. Or, dans cette réunion, la compagnie, la SNCF, la direction de la SNCF, a demandé, certes, à ce que la holding qui va être créée, on ne puisse pas en céder les capitaux. En revanche, si la holding est protégée, rien n'empêcherait d'ouvrir le capital eh bien, des différentes filiales. Les filiales, c'est quoi? C'est SNCF Mobilité, c'est SNCF Réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait quand même privatiser à terme la SNCF, en tout cas le transport de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est, comment dire, on le savait. Si on crée une société avec des titres, des capitaux, même si on déclare qu'à un instant T, ils sont non cessibles, ça veut dire que potentiellement, un jour, on peut décider le contraire. Mais là, ça signifierait, c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir ce qui s'est dit dans cette réunion et ce que ça signifie, ça signifierait quand même que, en effet, la privatisation n'est pas qu'un fantasme de complotiste quelconque.
Raphaël ?
Non, non seulement c'est pas un fantasme, mais en réalité, quand on écoute la rhétorique qui est utilisée, c'est même peut-être une conséquence logique. C'est-à-dire que quand on parle d'un service public exclusivement sous le biais, le prisme de sa rentabilité, du fait qu'il ne doit pas avoir de dette, quand on en parle comme d'une entreprise privée et qu'on ne fait plus la distinction en fait entre la nature même d'une mission de service public et le caractère d'une entreprise privée dont le but est d'être à l'équilibre ou de faire de l'argent, eh bien on aboutit nécessairement à ne plus faire de distinction et donc à laisser la porte ouverte, alors si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard, à la privatisation.
Donc, histoire à suivre, il faut signaler que la ministre des Transports déclare que c'est une réunion de travail. Tout cela n'est pas arbitré. On aura évidemment l'occasion d'y revenir.
Bien sûr.
Bien sûr. Pendant ce temps, cette semaine, de nombreux étudiants passaient ou essayaient de passer leurs examens. C'était notamment le cas des étudiants de l'université de Nanterre, des examens prévenus hier et avant-hier qui devaient se dérouler à la maison des examens d'Arcueil et qui ont été reportés. Écoutez, Éric Coquerel, député La France Insoumise, il était aux côtés de ses étudiants pour affirmer son soutien.
On ne peut pas répondre à une mobilisation étudiante en décidant comme ça d'organiser des examens en dehors du corpus. Ça ne s'est jamais fait, ça ne doit pas se faire.
Éric Coquerel, mégaphone à la main donc devant la maison des examens d'Arcueil. Raphaël Glucksmann.
Non, je pense que... D'une part, il y a une hypocrisie du gouvernement parce que c'est la sélection qui est proposée. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ne le disent pas. Enfin, je comprends tout à fait leur intérêt stratégique à pas le dire, mais je pense que là-dessus, il y a une hypocrisie forte. Et donc, je comprends la mobilisation. Mais d'autre part, je vais faire un « et en même temps » d'inspiration macronienne.
Allez-y.
D'autre part, eh bien, je ne pense pas qu'empêcher des étudiants, surtout quand on est un élu de la nation, de passer leurs examens quand eux ne font pas grève, soit une solution. Je pense que les scènes auxquelles on a assisté, eh bien, sont très problématiques et que ça discrédite la lutte qui est menée. Et je vois là un problème... pour moi, général, aujourd'hui, dans la disposition du débat en France, c'est qu'en gros, eh bien, le gouvernement veut avoir face à lui des bloqueurs ou des gens comme Coquerel, et il n'y a plus de remise en cause rationnelle de ces mesures. Et donc, ça permet, en fait, de finalement tuer le débat dans l'œuf et de délégitimer les corps intermédiaires, ce qui est extrêmement problématique pour moi.
Natacha.
Alors, je pense que nous pourrions avoir un débat, et un débat qui serait extrêmement intéressant, Raphaël et moi, sur la question de la sélection. Je ne pense pas justement qu'il y ait sélection pour l'instant, et je ne pense pas que la sélection soit en elle-même scandaleuse. En revanche, je pense qu'il n'y a pas eu de véritable débat, non pas sur Parcoursup, mais sur ce que ça nous raconte du sens, du rôle de l'université. Ça fait 30 ans qu'on évite de se poser la question de ce que doit être l'université par rapport aux filières professionnalisantes, par rapport aux écoles, par rapport aux grandes écoles. Tout ça, il faudrait à un moment donné le remettre à plat. En revanche, ça ne justifie nullement ce qui est en train de se passer. Là, je rejoins Raphaël. Et ça pose la question de ce qu'est une grève étudiante. De quelle nature peut être une grève étudiante ?
C'est une bonne question. Le comité de mobilisation de la fac de Nanterre a fait un communiqué dans lequel il dit « Dans ce contexte de grève nationale, maintenir les partiels, c'est vouloir casser la grève ».
Mais oui, mais sauf que les étudiants ne sont pas des travailleurs comme les autres, ça n'a rien à voir. Quand des cheminots font grève, par exemple, ils ne remettent pas en cause directement la possibilité pour les autres de travailler, de gagner leur vie, de vivre. Des étudiants qui ratent leur examen à l'examen, c'est ponctuel, c'est un moment spécifique dans une année. Vous avez des étudiants qui sont engagés pour des stages, ils ont besoin de ces examens. Ça n'est pas du tout la même chose de les empêcher de passer cet examen que de faire une grève quand on est salarié d'une entreprise. Donc la question de la modalité de la lutte est cruciale.
Raphaël.
Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas de sélection. C'est faux. Quand on impose des prérequis pour déterminer qui peut entrer dans une université ou pas, ça s'appelle une sélection. Et donc, il y a une forme d'hypocrisie à cacher ce mot, à expliquer que ce n'est pas le cas. Et ce qui nous empêche, en fait, d'avoir ce vrai débat. Parce que moi, je serais ravi de débattre avec vous sur la question de la sélection à l'université. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant.
Non, mais on aura le temps et on prendra le temps de le faire une autre fois. Allez-y,
oui,
Raphaël.
Je pense que ce serait nécessaire.
puisque cette question, elle va continuer de se poser, puisque les mouvements continuent. En l'occurrence, deux universités restent bloquées, Rennes 2 et Nanterre, 5 autres perturbées, Limoges, Nantes, Marseille, Sorbonne Université et Paris 8. L'histoire est donc loin d'être terminée. France Inter, il est 13h34. Le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
C'était cette semaine, mardi, le président américain Donald Trump s'adressait à ses concitoyens depuis la Maison Blanche, une adresse solennelle de 10 minutes pour affirmer que les États-Unis se retiraient de l'accord sur le nucléaire iranien.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. We will be instituting the highest level of economic sanction. Thank you. God bless you.
Donald Trump le 8 mai, traduction en image à la une du Spiegel cette semaine, un énorme doigt d'honneur et ce titre, Goodbye Europe. Beaucoup d'inquiétudes et de questions depuis mardi dernier. On en parle avec notre invité, le fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Recherches Internationales et Stratégiques. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié récemment Antisémite chez Max Milo, une réponse à tous ceux qui vous collent cette étiquette, qui vous accusent d'antisémitisme. Et on y reviendra tout à l'heure, à la veille du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Comment parler d'Israël dans l'espace public en France, d'Israël et de la politique israélienne, évidemment, puisque ça fait partie des choses dont vous traitez dans votre livre. Mais d'abord, partons de ce qui a sidéré la communauté internationale, à savoir cette décision du président de se retirer, de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Est-ce qu'il doit se lire comme un doigt d'honneur à l'Europe, comme le titre le Spiegel?
Plus que ça, c'est une menace claire, parce que il y a deux choses. Il y a d'une part le retrait de l'accord iranien qui amène la crise dans la région. Cet accord avait deux avantages. Il évitait que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et il évitait que l'on fasse une guerre pour éviter que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. On se rappelle des conséquences de la guerre d'Irak de 2003. Mais Donald Trump aurait pu se contenter de dénoncer l'accord sans avoir le corollaire qu'il apporte. Si vous continuez à commercer avec l'Iran, je vous punis sévèrement. Et donc ce n'est pas seulement l'accord nucléaire iranien qui remet en cause. C'est l'ordre international. C'est l'ordre multilatéral. Est-ce qu'on a le droit d'être en désaccord avec les États-Unis, ou est-ce que Trump veut faire entrer le monde dans un moment unipolaire où, de nouveau, ceux qui ne sont pas d'accord avec les États-Unis, eh bien, seraient sanctionnés?
Ben, ce sont de très bonnes questions. Quelle est votre réponse?
Oui, c'est ça. C'est encore plus grave. C'est-à-dire que la façon dont Trump vit le retrait de l'accord nucléaire iranien me paraît encore plus grave que ce retrait.
Parce qu'on s'étonne de la décision du président américain, mais après tout, il ne fait que ce qu'il avait annoncé, Pascal Boniface.
Oui, bien sûr, il fait ce qu'il avait annoncé, mais il aurait pu simplement se dire voilà, je ne respecte plus l'accord, mais une fois encore, je ne vais pas sanctionner les autres signataires qui respectent leur signature. Mmh. Et donc là, il fait encore pire que George Bush en 2003, avant la guerre d'Irak. Parce que George Bush était bien sûr fâché avec la Libye qui n'avait pas voulu le suivre, mais il n'y a pas cette menace globale de sanctions. Et c'est un peu le paradoxe, c'est que Trump est plus isolé que n'était Bush, parce qu'il y avait au moins la moitié des pays européens qui suivaient George Bush à l'époque, dont le Royaume-Uni, qui ce coup-ci est du côté contre les États-Unis. Et donc on voit que George Bush n'est suivi que par 3 ou 4 pays. Et il voudrait Trump. Que tout le monde lui obéisse. C'est quand même un paradoxe sidérant et c'est ça qui me paraît encore plus grave.
Raphaël Guzman, puis Natacha Polony.
Non, c'est le triomphe de l'unilatéralisme à la fois unilatéral et en même temps qui voudrait s'imposer universellement. C'est un moment déterminant, je pense que c'est un moment déterminant pour l'Europe. Il faut écouter ce que dit Angela Merkel. C'est quand même une dirigeante allemande qui s'inscrit dans une tradition allemande. Et la tradition allemande, c'était que, un, nous ne devons pas avoir des capacités autonomes de défense ou d'une diplomatie autonome. Et les États-Unis sont nos protecteurs. Qu'est-ce qu'a dit Angela Merkel suite à la décision de Trump? Les États-Unis ne nous protègent et ne nous protégeront plus. Et donc c'est un moment essentiel, c'est-à-dire que on doit décider si on
c'était une
devient...
formule ou pas.
C'est ce qu'elle a dit.
Oui, je sais, mais est-ce que c'était uniquement des
mots? Non, je pense que
c'est
quelque
chose. C'est pas la première fois que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, déjà l'an dernier, elle avait dit les Européens doivent prendre en main leur propre destin. Et donc là, il y a une graduation, effectivement, c'est que les États-Unis, qui étaient vus en Allemagne comme un pays protecteur, est vu maintenant comme une menace pour la sécurité.
Et donc, on doit décider si on est assez grand pour avoir une politique autonome et pour, s'il le faut, en l'occurrence, il le faut, eh bien, entrer dans une forme de rapport de force avec les États-Unis. Pour entrer dans une forme de rapport rapport de force avec les États-Unis, il faut avoir des capacités autonomes. Il faut avoir une capacité de prise de décision autonome, une capacité de projection autonome, une capacité européenne de diplomatie de défense. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, extrêmement important. Je vais finir par un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Là où grandit le péril, grandit aussi ceux qui sauvent. » C'est-à-dire que ce moment de Trump nous permet aussi de sortir d'une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on a pendant extrêmement longtemps en Europe, aimer critiquer vaguement les États-Unis, mais tout en se projetant sous le parapluie américain à la première occasion, à la première averse venue. On comprend aujourd'hui que ce parapluie eh bien, n'existe plus et qu'il peut même se transformer en menace. Et donc là, c'est un enjeu fondamental pour l'Europe.
Natacha.
Oui, enfin, à ceci près que, pour l'instant, rien n'a changé et que d'ailleurs, cette question, ce n'est pas Donald Trump qui l'a fait apparaître. Premier point, il est vrai que la nouveauté, c'est l'axe entre Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et dans un sens, on peut dire que là, actuellement, et c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui l'a prouvé par la présentation qu'il a fait de documents totalement biaisés pour essayer de prouver que l'Iran ne respectait pas l'accord, on voit bien que c'est Donald Trump qui s'aligne sur l'actuelle focalisation d'Israël sur l'Iran et l'Arabie Saoudite qui vient en surplomb parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas d'une puissance iranienne suffisamment grande. Mais la question de l'unilatéralisme américain, il existait avant Trump. L'extraterritorialité du droit américain, c'est quelque chose sur lequel certains observateurs alertent depuis 10 ans. Dans un désert absolu, tout le monde s'en fichait. On vient enfin de comprendre que c'était une catastrophe économique pour nos entreprises. Et là, il va falloir voir si les pays européens ont le courage de s'opposer, non pas au gouvernement américain, mais aux juges américains, c'est-à-dire d'imposer de leur côté la réciproque, et bien c'est-à-dire d'imposer le droit européen face au droit américain, c'est la seule réponse. Quant à l'Allemagne, là, pardon, mais certes, il y a quelques déclarations d'Angela Merkel, mais jusqu'à présent, Emmanuel Macron, qui a visiblement pris conscience du problème, essaye de faire avancer une défense européenne indépendante de l'OTAN. Jusqu'à présent, l'Allemagne a toujours systématiquement bloqué toute avancée. Donc les paroles sont une chose, les faits, les actes, pour l'instant, ne suivent absolument pas.
Pascal Boniface.
Oui, mais les faits pourraient suivre, parce que là, c'est l'Europe est au défi. Est-ce qu'elle devient un vassal? Parce que pour Trump, il n'y a pas de partenaire, il n'y a que des vassaux. Et donc, est-ce qu'on se transforme en vassaux des États-Unis, qui, une fois encore, dont on n'a plus besoin de protection, parce qu'il n'y a plus la menace soviétique de la guerre froide. Donc on n'a plus ce besoin-là. Auparavant, on pouvait se taire en échange de la protection, ce qu'ont fait les Allemands pendant très longtemps. Et là, bien sûr,
l'OTAN n'a plus de raison d'être pour vous.
Alors, si c'est pour se transformer en lien de vassalité, non. Si c'est un partenariat d'égalité, oui, pourquoi pas. Mais sauf que là, Trump change la donne. Bien sûr, Natasha Pony a raison de dire qu'il y a toujours une composante unilatéraliste dans la politique américaine. Mais là, Trump le met à un curseur qui n'a jamais été égalé. Jamais les dirigeants européens n'ont été aussi humiliés, n'ont été traités avec aussi peu de considération. Bah, écoutez, on négocie pendant des mois, 12 ans, il a fallu pour négocier cet accord, pendant 12 ans. Fabius a été très critiqué parce qu'il avait durci les termes de l'accord justement pour qu'il soit inattaquable et que l'on soit bien sûr que les inspections nous assurent que l'Iran ne puisse pas aller vers le nucléaire militaire. Et donc là, Trump, en grande partie pour des raisons de politique intérieure d'ailleurs, sans se préoccuper des conséquences internationales de son geste, met tout à l'égout sans se préoccuper une fois encore ni de l'avis des Européens, mais bon. Et alors peut-être qu'à terme, c'est aussi le rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale qui est en cause. Parce que si on risque d'être sanctionné parce qu'on fait des échanges en dollars, je pense
parce
que
son commerce en dollars.
Oui, mais alors quel est le pays qui va triompher de tout cela? C'est la Chine. En fait, la politique de Trump, sur bien des points, est en train de faire accélérer la montée en puissance de la Chine. Il pousse la Russie dans les bras de la Chine. Il va pousser l'Iran également dans les bras de la Chine. Et là, c'est vraiment un défi parce que ce sont les Chinois. Il y a cette contradiction de dire que la Chine est le plus grand défi stratégique qui se pose aux États-Unis et de faire une politique qui est tellement répulsive pour tous les autres pays que finalement, ils vont considérer que non, celui qui est un danger pour la sécurité, ce sont les États-Unis.
Raphaël Glucksmann.
Ouais, moi, je critique assez souvent Emmanuel Macron pour là pouvoir reconnaître que quand même, il adopte une position qui me semble être juste.
Il s'est référé au gaulo-mitterrandisme. Là, il est à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va l'incarner?
Et donc, il incarne une position qui me semble juste, qui est une position qui refuse l'unilatéralisme américain, qui pousse à la construction d'un outil européen pour lui faire face et d'un logiciel européen pour lui faire face. Et Par ailleurs, il ne nie pas qu'il y a un problème iranien, qu'il y a ce problème iranien, il existe en Syrie, qu'il y a effectivement un risque régional dans la constitution d'un axe tout puissant entre Téhéran et le Hezbollah, avec Damas contrôlé par Assad. Et donc, il est audible par toutes les parties dans sa politique. Il ne s'aligne pas sur les tenants de cet axe iranien, il ne s'aligne pas sur les Russes, mais il ne s'aligne pas non plus sur l'unilatéralisme trumpiste. Et donc, si on veut que nos critiques soient audibles, il faut aussi savoir reconnaître quand il y a une position qui me semble mesurée et actuellement productive, potentiellement productive, qui est celle de la France.
Natacha Polony, sur ce gaulo-mitterrandisme auquel faisait référence le président de la République et Pascal Boniface.
En fait, juste un point,
Natacha, puis Pascal Boniface.
Oui, il y a deux points. L'accord nucléaire iranien ne mettait pas en cause le comportement de l'Iran dans la région. Il est respecté. Après, effectivement, le comportement iranien dans la région pose problème, mais il n'est pas dans l'accord.
Non.
Et dès qu'il faut s'adresser à deux choses différentes, garder l'accord, parce que c'est quand même une façon de faire triompher quand même les modérés. Et là, les grands vainqueurs de la rupture de l'accord par Donald Trump, c'est les Pasdaran, ce sont les gardiens de la révolution, et le grand vaincu, c'est le président Rouhani.
C'est exactement la position de la France, c'est-à-dire qu'on dissocie les deux, et on reconnaît qu'il y a un problème iranien
qui doit être traité autrement.
Par ailleurs, on n'annule pas l'accord qui favorise les plus modérés parmi les tenants de l'Union iranienne.
Natacha Polony.
Alors, c'est vrai que c'est la position qu'a essayé de tenir la France, et on peut reconnaître à Emmanuel Macron sa volonté systématiquement d'aller discuter avec tout le monde, notamment avec Ben Salman, sauf que il a échoué dans les faits, et on le voit à un point. Après l'annonce de Donald Trump de rompre l'accord iranien, Emmanuel Macron a déclaré « Nous allons essayer de mettre en place un nouvel accord plus large qui prendra en compte la stabilité dans la région, qui prendra en compte la question des missiles, etc. » Or ça, ce sont les termes exacts du plan prévu par Donald Trump. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, dans les faits, a été obligé de s'aligner sur la position américaine, c'est-à-dire de proposer cet accord plus large, qui est totalement inacceptable par les Iraniens, on le sait déjà, ils l'ont déjà dit, donc qui est une façon de les repousser dans leur retranchement. Et c'est pas seulement une question de politique intérieure pour Donald Trump, c'est aussi une question de lien avec Israël, notamment à travers son gendre Jared Kushner, qui est celui qui a mis en place cet axe avec Benjamin Netanyahou et Ben Salman en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il rêve d'une reconfiguration totale dans la région. Il rêve de régler le problème israélo-palestinien, et c'est pour ça que Mohamed Ben Salman fait pression sur Mahmoud Abbas. Donc derrière, il y a aussi une volonté d'ingérence absolument partout dans cette région.
Alors vous parliez justement de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, Natacha. Il sera demain avec Ivanka Trump en Israël pour le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu, avec l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est quelque chose qui est du pur symbole, Pascal Boniface, ou est-ce que ça fait vraiment entrer dans une nouvelle ère ?
Les symboles sont importants en diplomatie. Donc effectivement, c'est le symbole parce que ça ne change pas la réalité sur le terrain. Très honnêtement, la solution des deux États, elle paraît de plus en plus difficile, voire impossible à mettre en œuvre aujourd'hui. Et on s'en éloigne chaque jour. Et donc, le changement de l'ambassade américaine, à la fois, une fois encore, ne change pas la réalité sur le terrain, ni la composition du gouvernement israélien, ni l'État dans lequel est la société palestinienne et le leadership palestinien. Mais c'est un pas supplémentaire, et c'est là, une fois encore, d'ailleurs, une constante dans la politique de Trump. Je fais ce que je veux pour des considérations très principalement de politique intérieure, sans me préoccuper des éventuelles répercussions. Mais effectivement, le fait que et l'Égypte et l'Arabie Saoudite soient de son côté et n'aient pas protesté fait passer la pilule beaucoup plus facilement, même si les conséquences...
Ce qui est très surprenant.
Bah non, parce que
du côté saoudien, puisque Jérusalem est l'un des lieux saints de l'islam.
Mais parce que pour l'Arabie saoudite, le danger, c'est pas Israël, c'est l'Iran. Et donc l'Arabie saoudite voit l'Iran comme une menace existentielle et s'accommode très bien à la fois d'Israël et du transfert dans l'ambassade. L'Égypte est complètement pieds et poings liés pour des questions à la fois de sécurité et de financement aux États-Unis et aux Saoudiens. Donc là aussi, il ne proteste pas. Donc Netanyahou pense qu'il y a un moment dans lequel tout lui réussit. Il a également de très bonnes relations avec Poutine. Il faudra voir le jour d'après, parce que la société palestinienne est complètement décomposée. Il n'y a plus aucun espoir dans cette société. Mais je ne pense pas que l'occupation d'un peuple par un autre soit une solution viable sur le long terme.
Raphaël Luxman. Il y avait un film, c'est un hasard du calendrier, ce matin, qui est passé sur Public Sénat, qui s'appelle The Gatekeeper, ou des gens du Shin Bet, donc les services intérieurs israéliens.
Les cinq anciens dirigeants. Voilà,
parlent justement de exactement ce que vous mentionnez, c'est-à-dire sur l'occupation. Quel est l'impact dans une société comme la société israélienne, mais on pourrait parler d'autres sociétés, d'une guerre prolongée, même si elle est de basse intensité, et d'une occupation d'une population qui n'est pas un territoire qui n'est pas le sien. Et ils expliquent qu'en fait, l'occupation a déstructuré la société israélienne aussi. Et qu'aujourd'hui, si on a une coalition à ce point à droite en Israël, c'est lié au comportement de générations entières qui vont dans des territoires occupés, se comporter en armée d'occupation et qu'ils ne reviennent pas chez eux indemnes de cette expérience. Et que donc il y a un durcissement progressif de la société israélienne elle-même et que puisqu'on est aux 70 ans, il faut s'interroger. Et il y a beaucoup d'auteurs israéliens qui s'interrogent justement sur ça, et y compris les anciens chefs du Shin Bet, qui expliquent que finalement, ils sont en train de partir en vrille, hors contrôle, et où la mentalité de l'occupant est rapportée à la société israélienne, avec une population qui vote de plus en plus à droite et qui a une préoccupation exclusivement sécuritaire, quitte à mettre à mal les idéaux d'origine de l'État israélien.
Natacha Polony, puis Pascal Boniface.
La question des idéaux d'origine est très importante. Pourquoi ? Parce que Israël a été fondé comme un État juif et démocratique. À partir du moment où on abandonne la solution à deux États, à partir du moment où petit à petit ce qui se dessine, c'est la perpétuation de cette occupation, eh bien ça risque de mettre en danger le fondement même d'Israël, parce que soit ça deviendra une société qui ne sera plus démocratique, où il y aura des citoyens de seconde zone, et c'est déjà en fait en partie le cas, soit ce ne sera plus un État israélien, étant donné la démographie. Donc c'est tout cela qu'il va falloir résoudre. Il est évident que la menace que fait peser l'Iran, par exemple, que fait peser la montée d'un intégrisme, à la fois de l'intégrisme sunnite, de tout ça, se comprend. Mais ce qui est effarant, c'est que l'on ne puisse plus débattre, même en France, sereinement de ces questions-là.
Et justement, on va y venir.
Voilà, le lien qui est fait systématiquement entre antisémitisme et antisionisme est dangereux. Et en face, on a en effet un antisémitisme qui se camoufle en antisionisme. Les deux sont vrais à la fois. Et donc, on ne peut que souhaiter des débats qui permettent de tenir la ligne de crête, c'est-à-dire de critiquer la politique actuelle d'Israël, sans pour autant nier cet antisémitisme qui aujourd'hui est en train de monter.
J'espère que c'est ce qu'on fait en ce moment. Raphaël Glucksmann et puis Pascal Boniface, puisqu'on arrive au cœur du sujet aussi du livre.
Mon principal point de désaccord avec vous deux, c'est que moi je ne pense pas en fait qu'il y ait une incapacité en France à critiquer Israël. C'est-à-dire que c'est par rapport proportionnellement au nombre de morts ou à la violence des conflits, c'est un des pays qui est le plus critiqué, et on est d'accord en plus ici sur le fond de la politique israélienne. Simplement, je ne pense pas, moi, qu'il y ait un tabou dans la critique d'Israël. Au contraire, elle est répandue absolument partout, dans tous les organes de presse.
Oui, c'est pas ça que j'ai dit.
Pascal Boniface, oui, c'est intéressant. Je rappelle donc que vous avez publié ce livre antisémite.
C'est un problème fondamental, parce que, bien sûr, vous avez raison, effectivement, on peut critiquer Israël, on en parle souvent, etc. Mais parfois, le prix à en payer est un peu plus lourd que si on critique les Palestiniens, par exemple. Alors, je veux pas ramener tout à mon cas personnel, mais moi, j'ai écrit des dizaines de bouquins, je n'ai jamais écrit une seule ligne antisémite, et il y a des gens qui sont persuadés que je suis antisémite parce que j'ai traité de la question israélo-palestinienne dans des termes qui ont déplu aux plus zélés et aux plus inconditionnels avocats d'Israël. Donc, la vérité est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, bien sûr, la critique d'Israël est libre, mais le fait de le faire peut amener à des désagréments personnels et professionnels qui sont un peu plus lourds.
Désagréments, par exemple, c'était en avril dernier, il y a un mois, quand vous avez été agressé à votre arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, vous avez été bousculé, insulté, menacé, on vous a craché dessus.
Oui, mais ça,
et
encore,
en France, on vous a collé cette étiquette. Enfin, certains vous ont collé cette étiquette d'antisémite.
Ça me paraît plus lourd que je vive avec cette étiquette, que mes enfants vivent avec cette étiquette, ça me paraît plus lourd. Des gens, quand je dis, mais donnez-moi des preuves, quelle citation ? Les gens sont bien sûr incapables. Il y a des gens qui ne me connaissent pas dans ma vie quotidienne, qui me voient voient comme antisémite parce qu'ils ont entendu parler de moi, mon médecin, etc. Enfin, dans la vie quotidienne, je pourrais multiplier les exemples. Les gens ne me connaissent pas, ils n'ont jamais lu ce que j'ai écrit, mais la rumeur m'a précédé. Et donc, il faudrait ramener un peu de raison. L'IRIS, je crois qu'on est la seule institution universitaire où, cette année, Aliza Ben Noun, l'ambassadrice d'Israël, et Léa Shaïd sont venus séparément tenir une conférence devant les étudiants.
L'ancienne représentante de la France,
voilà,
de la Palestine en France.
Il faut qu'on puisse débattre de cela de façon libre et ouverte, parce que sinon le débat, bah, il passe par, effectivement. Donc il ne s'agit pas de nier l'arrêté de l'antisémitisme, il ne s'agit pas également, il y a peut-être des antisionistes qui sont antisémites, mais il y a beaucoup de gens qui critiquent Israël, d'une part qui sont juifs eux-mêmes, et d'autre part qui...
Raphaël disait tout à l'heure qu'en Israël, il y a même des positions bien plus radicales que les vôtres peuvent s'exprimer.
Mais Betzelem, etc., Abraham Berg, dont on ne peut pas mettre en cause le sionisme, est bien plus critique que je ne le suis moi-même sur ce que fait le gouvernement israélien.
Donc, mais de toute façon, anti-sioniste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on serait contre l'existence de l'État d'Israël. Je pense que, effectivement, dans ce cas-là, si la position c'est ça, ça peut très facilement dégénérer en antisémitisme. Parce que c'est une position extrême. La critique de la politique israélienne, la critique même virulente de Netanyahou ou du comportement des soldats israéliens quand ils tirent sur des manifestants palestiniens.
Comme vous l'avez fait.
Ouais, comme je l'ai fait. Eh bien, ça me semble parfaitement non seulement légitime, mais en plus profondément nécessaire. Et donc, simplement, je vois bien qu'il y a des dérives.
Bien sûr.
Mais je ne crois pas que ce soit
interdit. Quand on critique Trump, on n'est pas traité de raciste anti-américain. Si je critique Xi Jinping, on ne va pas dire que je fais du racisme anti-chinois. Il y a quand même que pour ce cas spécifique, il y a cette assimilation. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent l'expression sioniste à tout bout de champ. Et qui ne disent pas les Israéliens, qui disent des sionistes. Mais il y a plusieurs visions du sionisme. Ça dépend si vous êtes sioniste. Moi, dans ma fac, les plus radicaux des étudiants qui faisaient le blocage, je parlais des blocages de la fac, il y a eu des tags Boniface égale sioniste. Parce que j'ai reçu l'ambassadrice d'Israël à l'IRIS. Donc, si on confond, il y a plusieurs types de sionisme. Il y a, disons qu'il y a les sionistes qui s'arrêtent à la ligne verte, qui sont d'accord pour faire la paix. Et donc, il y a ce mélange de vocabulaire qui conduit à la confusion. Mais il faudrait raison garder. Et cette assimilation qui a été faite par certains responsables politiques, antisémitisme, antisionisme et critique du gouvernement israélien, est un poison pour un débat ouvert et intelligent.
Natacha Polony.
Oui, mais disons qu'il faut reconnaître aussi que beaucoup, vous le disiez à l'instant, utilisent le terme sionisme et antisionisme pour maquiller l'antisémitisme et qu'il y a un discours antisémite profondément dangereux en France et qui est en train petit à petit de monter et de réaliser la jonction entre extrême gauche, extrême droite et culture parfois dans certains milieux arabo-musulmans. Et que tout ça se mêle, et je pense qu'on ne peut être audible sur la critique farouche qu'il faut mener de la politique israélienne actuellement, qui est dangereuse à la fois pour Israël, pour les Palestiniens et pour l'équilibre du monde. On ne peut être audible que si, à côté de ça, on est capable aussi de condamner, et il aurait fallu le faire sans doute en France plus tôt, l'antisémitisme qui a émergé et que personne ne voulait voir au départ.
C'est une exception française, c'est quelque chose de particulier à la France. Pascal Boniface, vous qui allez partout dans le monde donner des conférences.
Il y a aussi un réveil de l'antisémitisme en Allemagne. Il y a en Pologne, un pays où il n'y a presque pas de juifs, un antisémitisme qui est aussi virulent. Regardez ce qui se passe en Hongrie quand même avec Orban.
Mais l'accusation d'antisémitisme, celle par exemple dont vous êtes l'objet, quand on voit que Nathalie Portman, l'actrice israélienne, a pu être traitée de nazie parce qu'elle avait critiqué en Israël le gouvernement et la politique de Benjamin Netanyahu.
Rabin, lorsqu'il a fait la paix avec les Palestiniens, était également présenté comme un nazi, etc., par certains qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a cette... c'est pour ça, garder un espace de réflexion, de débat ouvert et intelligent, parce que si Natacha Polony a raison de dire qu'il y a certainement l'antisémitisme, il fallait le combattre. Il fallait le combattre en discutant avec ces gens-là, en allant en banlieue pour avoir des vrais discours, et pas en faisant de l'injonction, etc. Et c'est pas...
Mais vous partagez le diagnostic de Natacha qu'il y a un antisémitisme qui se déguise l'antisionisme ou la critique d'Israël.
Mais bien sûr, mais il est très minoritaire et la très grande majorité de ceux qui se mobilisent pour une paix en Palestine sont épargnés par cela. Qu'il y ait ensuite des gens qui prennent la critique du grand Israël pour assouvir l'antisémitisme, ça c'est une réalité.
Raphaël Luxman.
Non, bien sûr, mais c'est ce qui est affligeant, c'est que cette montée d'un antisionisme tellement virulent qu'il devient antisémite et qu'il charrie des images antisémites, on a pu le voir avec l'affaire Corbyn, par exemple au Royaume-Uni, où
le leader travailliste britannique
qui se retrouve à partager une fresque qui a tout de l'antisémitisme des années 30 et qui pourtant se définit...
Décrivez-la pour nos auditeurs qui ne l'ont pas forcément en tête.
Je suis pas un expert dans la description des fresques antisémites, mais vous imaginez à peu près les caricatures de gens avec des nez crochus et des ongles qui contrôlent la terre et qui se réunissent en gros comme dans le protocole des sages de Sion. Et
à la couverture de Valeurs Actuelles sur Georges Soros cette semaine.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, mais donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Moi, je pense que la meilleure manière de lutter contre cela, c'est un de le dénoncer de manière évidente, et ça n'a pas été assez fait pendant longtemps là-dessus. Natacha Polony a raison. Et deux, de mener une critique rationnelle de la politique israélienne et d'avoir un
même
débat.
Si le sujet suscite des passions.
Mais parce qu'il faut absolument justement couper ce lien. Je veux dire, les juifs français ne sont en rien responsables de Netanyahou, et ceux qui critiquent Netanyahou ne sont en rien en guerre, a priori, contre les juifs français. Et donc il y a ce lien qu'il faut couper, et c'est pour ça qu'il faut le couper quand les antisionistes font ce lien et sont antisémites en réalité. Mm-hmm. Et il faut aussi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continuerai à faire, rappeler aux organisations qui prétendent représenter les juifs de France qu'ils ne sont pas les ambassades bis de l'État d'Israël.
Pascal Boniface.
Je ne peux qu'abonder dans ce qui vient d'être dit.
Natacha aussi, vous aviez l'air d'acquiescer.
Mais bien sûr, parce que en effet, il y a eu une instrumentalisation. Benjamin Netanyahou venant en France expliquer aux Français qu'il devait faire l'Alia, le CRIF prenant des positions qui sont des positions politiques, qui laissent entendre qu'il y aurait un lien consubstantiel entre tout juif et l'État d'Israël, et qui, là aussi, prête à la confusion. Tout ça doit être combattu pour que nous puissions débattre sereinement, en effet.
Espérons qu'on a contribué un petit peu, à créer cet espace de discussion et ce débat en France. Merci Pascal Boniface d'être venu nous rendre visite. On va quand même terminer sur une note un peu plus légère. Vous êtes quand même surtout un très grand amateur de foot. Un pronostic pour la finale de l'Europa League mercredi prochain.
Ah bah écoutez,
OM vraiment, ou Atlético.
Ça serait quand même sympa que Marseille gagne.
D'accord, vous ne voulez vraiment pas d'ennui.
J'ai écrit un coup avec Abdiouf il y a quelques années, donc voyez.
Je m'en souviens, la préface est de Michel Vieviorca, c'est publié chez Max Milo. Je vous souhaite un bon dimanche. Natacha, Raphaël, je vous dis à dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier et Alexandre Gilardi à la réalisation cette semaine, Claire Destacan à la technique, Julien Michel et Florent Beauvallet. À suivre, Zoé Varier et sa journée particulière. Merci d'écouter France Inter, il est 14h.